Merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Je crois que la dernière fois que j'étais là, c'était juste une année, pour ainsi dire. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. J'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, j'allais dire ce soir, ce matin. J'aimerais vous encourager ce matin. Et je vais vous dire pourquoi j'aimerais vous encourager. Parce qu'évidemment, si je viens une fois par année, ce n'est pas pour autre chose que pour vous encourager, déjà. Mais ce n'est pas que ça. C'est parce que, soyons francs, les temps sont assez lourds. Et je n'ai pas envie de. On a tous le droit de penser ce qu'on veut sur la situation, peut-être l'interpréter, avoir une certaine compréhension suivant nos sources d'information. Évidemment, ce n'est pas ce que je vais faire ce matin. Ce n'est pas mon rôle ici. Mais il n'empêche que la situation est lourde et que ça pèse. Et que ça pèse à passablement d'entre nous. Je parlais avec Christian. Christian me disait comment il se sentait seul ces derniers jours. Rien que le fait de travailler à la maison, et on peut être bien à la maison, hein. Moi, j'y suis presque trop bien pour travailler. Mais ça nous enlève une bonne partie de notre dimension sociale, de notre vie, de ce qu'on est. Et nous sommes des êtres sociaux, peut-être avant tout. Et ça pèse beaucoup. Et j'aimerais, dans ce contexte-là, vraiment vous dire. D'abord, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est sur son trône et il règne sur tous les royaumes des hommes. Il n'est pas pris par surprise. Probablement que nous avons tous été pris par surprise. J'ai été pris par surprise il y a presque un an en arrière. J'aurais jamais pensé, j'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Mais le Seigneur est sur son trône et le Seigneur est en contrôle. Et le Seigneur règne dans notre vie. Et donc, c'est une source pour nous de confiance, c'est une source de foi. Et puis, c'est une source de joie aussi. Et c'est ce vers quoi je voulais venir. Réjouissez-vous dans le Seigneur et à nouveau, je vous le dis, réjouissez-vous, la parole de Dieu nous dit. Et c'est très, très important parce que la joie du Seigneur est notre force. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut nous enlever et ça fait assez peur, je dois dire, en termes de droits civiques, en termes de liberté, en termes de mouvement. Mais. Personne, si nous ne laissons pas, personne ne pourra nous enlever la foi, personne ne pourra nous enlever la vérité, personne ne pourra nous enlever cette source de joie qui est notre force et qui nous permet d'avoir des forces renouvelées. Celui qui s'attend au Seigneur renouvelle ses forces, il marche et ne se fatigue pas, il court et ne se lasse pas, il prend son envol comme l'aigle. Et vraiment, c'est ma prière pour vous, pour chacun d'entre nous, que le Seigneur renouvelle notre force dans notre vie, renouvelle notre foi si on en a besoin. On peut perdre beaucoup de batailles dans notre vie et on en perdra beaucoup, mais il y a un combat qu'on ne peut pas se permettre de perdre et c'est le bon combat de la foi. Et vraiment, c'est mon encouragement pour vous ce matin. Tout ce que je vais dire, interprétez-le comme un encouragement maintenant alors qu'on va regarder à la parole du Seigneur. J'aimerais vous encourager à tourner dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Alors, vous savez ce que Pierre dit. Je vais essayer de ne pas être trop long, hein. Vous savez ce que Pierre dit des écrits de Paul. C'est probablement pas une pique, mais moi ça me fait toujours rire quand je lis Pierre, puis qui dit, oui, Paul nous l'a dit aussi, dans des propos qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et en fait, si la chose qui... Enfin, il y a beaucoup... Plus je découvre la vie de Paul, et plus cet homme m'impressionne, à la fois dans ce qu'il a communiqué et dans ce qu'il a fait. C'est absolument impressionnant. Et l'héritage qu'il nous a laissé est impressionnant. Et une des choses qui m'impressionne dans les écrits, dans les propos de Paul, c'est comment il arrive à condenser les choses en quelques mots, en quelques phrases. Vous lisez Éphésiens, et alors on l'a fait ce matin dans un exercice qui est le psaume 23, c'est-à-dire de lire et de relire. J'aimerais vraiment vous encourager à lire la parole de Dieu. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, quand on lit la parole de Dieu, on gagne à lire un livre presque sans s'arrêter. Alors, c'est pas facile à faire parfois. Je suis au milieu de Lévitique. Et à chaque fois que j'entre dans Lévitique, je m'accroche. Il y a rien qui m'encourage dans les Vitogues. C'est pas juste, hein. C'est mon ressenti. C'est pas juste ce que je dis. Il y a rien qui m'encourage. Mais je dois passer à travers ce désert si je veux entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Alors, je lis Lévitique et je m'accroche jusqu'à que j'arrive à la fin de Lévitique, là, maintenant. Et parfois, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Donc, quand je peux pas dormir la nuit, je lis la parole de Dieu. Généralement, si je lis Lévitique, ça m'amène rapidement à retrouver le sommeil. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous pouvez lire une épître de Paul, la lire une fois, la lire une deuxième fois dans la même journée. C'est absolument impressionnant. C'est impressionnant. C'est toute cette signification qui est compressé dans quelques phrases. Un jour, un écrivain a écrit une lettre d'une dizaine de pages et à la fin de la lettre, il dit « Veuille m'excuser, je n'ai pas eu le temps de faire plus court. » En réalité, ça prend du temps de faire plus court, n'est-ce pas? Et parfois, nous, prédicateurs, on pourrait tirer profit de prendre du temps pour faire un peu plus court. Mais dans Éphésiens 2, un passage que vous connaissez bien, probablement un des passages que vous avez appris... Peut-être le passage que vous avez appris après Jean 3,16, c'était celui-ci au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous avons été sauvés de. Le Seigneur veut nous sauver de bien des choses. Mais de dire que Dieu nous sauve de seulement, c'est juste une partie de l'image. Et c'est une partie de l'image qui est essentielle, mais qui n'est pas complète. Non seulement le Seigneur nous sauve de du péché, de ses conséquences, et elles sont grandes dans le temps, dans l'espace, dans l'éternité. Mais il ne nous sauve pas seulement du péché et de ses conséquences et de la condamnation, mais il nous sauve aussi pour quelque chose. Rappelez-vous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Le Seigneur a été les chercher de l'Égypte. Il les a sortis de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Donc notre salut, ce n'est pas seulement quelque chose par rapport au passé, mais c'est aussi quelque chose par rapport au présent et par rapport au futur. Il y a une notion de destinée. Et je crois que c'est très très important qu'on s'en rappelle parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on a à découvrir dans notre salut. Si on étudie la parole, et on va pas le faire ce matin parce qu'on n'aurait pas le temps, et en réalité, pour être très franc avec vous, parce que je ne suis pas prêt à le faire, mais ce serait intéressant de découvrir toutes les raisons pour lesquelles nous avons été sauvés. Et quand je parle de raisons, je ne parle pas de la motivation de Dieu dans le sens de l'amour qu'il porte pour nous, de l'amour inconditionnel qu'il porte pour nous, mais toutes les raisons dans le sens de la destinée, de ce vers quoi il veut nous amener dans notre salut. Et la parole de Dieu nous dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu tout ce que Dieu a préparé à ceux... pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui s'attendent à lui. Donc il y a tellement de choses qu'on a encore à découvrir. On a vécu ce début d'année, on a adressé des vœux et j'ai dit à beaucoup de gens, je te souhaite de découvrir, jouir et accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et une des raisons pour laquelle le Seigneur nous a sauvés, c'est afin d'accomplir et de pratiquer les bonnes œuvres que lui a déjà préparées. Et donc, en réalité, le Seigneur ne nous demande pas d'être inventif, créatif, innovant concernant les bonnes œuvres. Il nous demande simplement de découvrir les œuvres que lui a déjà préparées et qu'il ne veut pas qu'elles s'accomplissent sans nous. Le Seigneur pourrait le faire avec nous, mais il a choisi de ne pas le faire sans nous. Et c'est là un privilège absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'il nous suffit de répondre à un appel. Et l'appel de Dieu est dans notre vie
pour le salut sur chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais prendre quelques exemples et voir de quoi cet appel est fait dans notre vie pour qu'on accomplisse ce que Dieu a déterminé à l'avance. Parce que tout est déterminé à l'avance. Comme l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Absolument tout. Quelques bonnes années en arrière, nous avons trois filles et une de mes filles qui avait 2 ans et demi, 3 ans, me réveille un samedi matin et elle me dit « Papa, papa, où est-ce que j'étais avant de naître ?» Et j'avais pas de réponse. Et littéralement, j'ai prié, je sortais de mon sommeil, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, donne-moi la réponse, je dois donner une réponse à ma fille. » Et la réponse est venue immédiatement. Je lui ai dit « Hannah, avant de naître, tu étais dans la pensée de Dieu. » Et en fait, dans cette pensée de Dieu, il y a déjà tout. Il n'y a rien à rajouter. Dans la pensée de Dieu, il y a tout. Simplement que cette pensée doit être révélée et ensuite accomplie. Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes à qui il veut, il a faim, il a soif de révéler son cœur, de révéler sa pensée. Il cherche des gens, j'ai presque envie de dire, avec qui il veut entrer en partenariat. Mais partenariat, c'est trop léger comme nom. Dans une relation d'alliance, n'est-ce pas? Dans cette alliance, pour pouvoir partager ce qui est dans son cœur, ce qui est lourd dans son cœur, ce qu'il veut partager avec d'autres, afin qu'ensemble, nous les accomplissions. Alors, on va tourner dans Exode. On va pas tourner dans Lévitique, on va tourner dans Exode. Dans Exode 3, en fait, c'est exactement ce que le Seigneur fait. Il a tout dans sa pensée, il a un plan, il a un propos, et il veut le partager avec quelqu'un, et il va trouver Moïse. Et il dit au verset 7, et on va lire les versets 7, 8, 9, 10, il dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser à ses oppresseurs, et car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans ce pays, les monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Bon, le Seigneur a un plan, il a une pensée, il le partage avec un homme, et il a trouvé son homme au milieu désert. Et si on fait un flashback dans la vie de Moïse, j'ai l'impression, mais ce n'est pas écrit, mais j'ai l'impression que Moïse avait une certaine notion de l'appel de Dieu, qu'il était appelé pour intervenir en faveur de son peuple. C'est peut-être cela qui l'a amené à aller visiter son peuple. C'est peut-être cela qui l'a amené à intervenir entre un Israélite et un Égyptien. C'est peut-être qu'il s'était fait un film, que compte tenu de sa position, compte tenu de la faveur qu'il avait, compte tenu de son pouvoir, compte tenu de sa connaissance, il agirait pour délivrer d'une certaine manière son peuple, peut-être, je ne sais pas, mais je suis assez persuadé qu'il y avait une notion d'appel, de destinée dans sa vie, parce que je crois que en réalité c'est placé dans la vie de Moïse comme c'est placé dans chacune de nos vies. Et puis notre Dieu est le Dieu de l'improbable. Et en fait, son appel, il n'est pas basé sur la connaissance qu'on a, l'élite à laquelle on peut appartenir ou pas appartenir, notre position sociale, notre fonction, les compétences que nous avons, la position d'autorité ou pas d'autorité. Le Dieu est un Dieu d'improbable. Nous, on aurait appelé Moïse quand il était dans la maison de Pharaon. Et on aurait dit, ça y est, Dieu l'a placé là, et maintenant Dieu va l'utiliser pour sauver Israël. Mais il est le Dieu de l'improbable, en fait. Il va attendre, il va repousser, pas repousser, mais par rapport à notre pensée, 40 ans plus tard, quand Moïse n'est plus rien à la vue de la société. Il n'a plus de position, il n'a plus de compétences, il a de la difficulté à parler. Il n'a pas grand-chose, finalement. Peut-être qu'il n'a plus rien. Et c'est là que Dieu l'appelle. Et non seulement Dieu l'appelle, mais Dieu lui donne un mandat. Et c'est là où j'aimerais en arriver. Là, et le mandat que Dieu donne à Moïse n'est pas un mandat très compliqué. Tu vas en Égypte, tu vas te présenter à Pharaon et tu libères mon peuple de l'Égypte. On peut tous comprendre ce mandat, d'accord ? On peut tous comprendre ce mandat, mais ça ne veut pas dire que ce mandat est simple, n'est-ce pas ? Et ce mandat-là va être en fait pour Moïse le mandat de sa vie. Et Dieu va le lui confier parce que Dieu a trouvé un homme en qui il pouvait confier ce mandat. Et vous savez comment Moïse va se montrer fidèle dans toute la maison de Dieu, au service qu'il va mener. Notre Seigneur met un appel sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque individu. Et je dis chaque homme et chaque femme, hein, parce que il y a tout un vent qui vient maintenant, on ne va plus dire homme, on ne va plus dire femme, on va, enfin, probablement ni vous ni moi, j'espère, mais il y a un vent qui vient comme ça. Hein. Chaque homme, chaque femme, chaque individu, mais cet appel, il va être fait d'un mandat ou de plusieurs mandats. Alors, Moïse, ici, il reçoit un mandat, et le mandat, c'est de délivrer le peuple de l'Égypte. Et heureusement qu'on ne reçoit pas tous un mandat comme cela, parce qu'il est particulièrement lourd à porter. Mais il n'y a pas que des mandats qui sont aussi importants que cela, et qui sont pourtant des mandats divins. Alors, peut-être que c'est difficile pour nous de dire comment est-ce que je peux tirer profit de l'expérience de Moïse dans ma propre vie, parce que moi je ne suis pas appelé pour aller sauver un peuple et intervenir dans une situation sociale, politique, géopolitique, amener un peuple sur une autre terre, voir un peuple se transformer en nation. Et pourtant. Alors, on va prendre un autre exemple et j'aimerais aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est la conversion de Saul qui deviendra Paul. Et au verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tous les saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » On pourrait se concentrer sur le mandat de Saul, qui va devenir Paul, et qui va faire une œuvre absolument incroyable, et comme on le sait maintenant, et qui a laissé un héritage à travers toutes les générations jusqu'à nous. Mais non, j'aimerais qu'on se concentre sur Ananias, un disciple. On a corrigé moi, je crois qu'on n'a rien entendu de lui avant, et je crois qu'on n'entend plus parler d'Ananias après. Mais il reçoit un mandat. Et son mandat, il n'est pas si compliqué, il n'est pas compliqué à comprendre. Tu te lèves, tu cherches une rue qui s'appelle la droite, un homme qui s'appelle Saul, et tu pries pour lui parce que je l'ai choisi. Et là, à nouveau, on a un exemple de l'expression de l'appel de Dieu concret, où Dieu nous appelle à passer à l'action, pas selon nos bonnes idées, pas selon nos beaux projets, pas une œuvre des hommes, parce qu'on en a suffisamment de l'œuvre des hommes, mais d'une œuvre de Dieu, de la pensée de Dieu, qui nous interpelle, qui nous surprend, qui sort des sentiers battus, qui fait partie de l'improbable, cette œuvre de Dieu qu'il ne veut pas mener sans nous. Et donc, il nous confie des mandats et il nous distribue des mandats à chacun d'entre nous dans notre vie. Alors parfois, comme on l'a vu, il peut y avoir un grand mandat qui lui-même va se diviser en plus petits mandats, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit à Moïse, tu vas en Égypte et tu sors le peuple de l'Égypte et tu vas l'amener dans la terre promise. Et puis ensuite, on va voir la déclinaison de ce mandat. À chaque fois, Dieu va lui parler, tu vas devant Pharaon et tu lui dis, laisse aller mon peuple. Et il y va une fois, deux fois, trois fois, il y va une multitude de fois. Et à chaque fois, il y va avec un mandat de Dieu. C'est ce qui lui donne l'autorité. C'est ce qui lui donne l'autorité. C'est ce qui fait la différence. Et qui es-tu, toi, pour parler à Pharaon? J'ai un mandat de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je le fais. Qui étaient ces disciples qui ont été dans le monde entier pour faire des disciples? Qui étaient-ils? Dieu a utilisé les hommes les plus improbables. Chacun d'entre eux a quelque part a abandonné le Seigneur à la croix du calvaire, à la résurrection. Si on avait été le Seigneur, on aurait choisi une autre équipe. On aurait fait tabula rasa et on aurait choisi d'autres personnes. Mais pas le Seigneur. Non, pas le Seigneur. Et il leur donne un grand mandat. Et ce mandat-là va ensuite se disséquer en plus petits mandats. Et ce sont des hommes à qui Dieu a donné la faculté de considérer la vue d'ensemble, la grande image. Et on n'est pas tous comme ça. Certains d'entre nous, on comprend que la petite image. Alors le Seigneur va, et ce n'est pas un problème, s'il vous plaît, il n'y a pas de jugement, ce n'est pas un problème. On est tous différents. Alors le Seigneur va nous donner des plus petits mandats, d'accord? Et puis le cumul de ces mandats, au fur et à mesure que nous obéissons, au fur et à mesure que nous les exécutons, au fur et à mesure que nous pratiquons et que nous accomplissons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, eh bien, au fur et à mesure, nous rajoutons des pixels et des pixels sur un jour une image que nous verrons et qui aura beaucoup de sens. Et c'est très, très fort. C'est très, très fort. Parce qu'on vit actuellement dans ce qu'on appelle une ère post-moderne. Et dans l'ère post-moderne, plus rien n'a de sens. C'est le grand dilemme de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi? Ils n'ont pas le sens de la destinée. Ils ont peut-être un sens à l'intérieur, mais personne ne leur donne ce sens de la destinée. Et dans cette période, ère post-moderne, nous avons un Dieu qui nous sauve de, pour nous sauver pour, et tout a du sens. Et peut-être qu'on ne le comprend pas tout de suite, mais pixel après pixel, nous aurons une image et nous verrons que l'œuvre de Dieu est merveilleuse. On a encore 5 minutes. Mon épouse et moi, nous sommes allés en Grèce en octobre l'année passée, et j'ai dit à d'autres pasteurs, je voulais leur faire un peu envie, je vais en Grèce et nous allons sur les pas de l'apôtre Paul. Et ils me disent, oui, bah, tu veux aller dans les plages où il s'est baigné. Là, je dis, non, c'est pas ça. On a atterri à Athènes et on est allé à Corinthe, on est allé à Thessalonique, on est allé à Philippie, on est allé à Bérée. Il n'y a rien à voir à Bérée, et pourtant il y a tout à voir, c'est absolument extraordinaire. Je ne voulais pas aller à Bérée, mais mon épouse est une personne qui ne lâche pas l'affaire. Alors elle me le demande une fois, deux fois, puis après j'ai remarqué, elle n'insiste plus. Mais après elle s'adresse au Seigneur. Elle dit, puisque mon mari ne m'écoute pas, c'est à toi que je prie, Seigneur. Alors je ne voulais pas aller à Bérée, finalement elle est allée à Bérée. Alors ce qui est absolument extraordinaire à Bérée, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir, et pourtant il y a tout à voir. Il y a encore une communauté juive à Bérée. On a fait la connaissance, et on n'avait rien prévu avec une assemblée qui est à Béret également. Et puis le pasteur nous a fait visiter toute cette communauté juive. Et c'est absolument extraordinaire, un endroit où ils se sont empressés de recevoir la parole en vérifiant toute chose. Hein? Empressés et puis en examinant. Empressés, examinant. Et pourquoi je vous dis ça? On est, alors, parce que l'apôtre Paul va avoir une mésentente avec Barnabas. Et on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé, mais probablement que la parole de Dieu utilise quelque peu un euphémisme par rapport à leur mésentente, parce que c'était une tellement grande mésentente qu'ils ont fini par se séparer, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'on verra à travers les épîtres que l'apôtre Paul mentionne Barnabas à plusieurs reprises envers des assemblées qu'ils n'ont pas fondées ensemble. Donc ça veut dire qu'à quelque part, il y a dû avoir une reconnexion, et c'est merveilleux comme ça. Et puis, l'apôtre Paul s'étant séparé de Barnabas et Barnabas de l'apôtre Paul, on sait que Barnabas avec Jean-Marc vont de leur côté, et puis l'apôtre Paul avec Silas va de son côté. Et puis, c'est une période, je ne veux pas trop l'interpréter, mais c'est une période où il essaye d'aller en Bithynie, et puis l'Esprit du Seigneur ne lui permet pas, il veut aller en Asie, et le Seigneur ne lui permet pas. Il a des bonnes idées, peut-être ce sont des idées humaines, ou peut-être ce sont des idées de Dieu, mais pas dans le temps de Dieu, parce qu'il ira en Asie mineure. Ce n'est pas le temps de Dieu. Le Seigneur, il avait une autre pensée. Alors, si on regardait sur une map, il veut aller à gauche, le Seigneur l'en empêche. Il veut aller à droite, le Seigneur l'en empêche. Donc, pour l'apôtre Paul, c'est exclu de rebrousser chemin. Donc, il va juste devant lui. Puis, il arrive à Troas. Le problème de Troas, l'ancienne ville de Troie, hein, mais appelée Troas à ce moment-là, c'est que vous vous trouvez dans un port, et puis il y a la mer devant vous, et si vous n'avez pas une direction, vous ne savez pas où aller. Alors vous pouvez prendre un bateau, mais vous ne savez pas où aller. Et c'est là où il reçoit en fait cette vision dans la nuit du Macédonien qui lui dit « Viens nous aider, viens à notre secours ». Et là, en réalité, Paul et ceux qui sont avec Paul interprètent la chose comme étant un mandat de Dieu. Et alors, c'est absolument extraordinaire, parce que rappelez-vous, ce n'est pas la pensée de Paul, en tout cas pas la pensée première de Paul. Mais immédiatement, ils vont obéir. Alors ça, pour moi, c'est absolument extraordinaire, et c'est un point clé que je dois mentionner dans le mandat, c'est l'obéissance. Mais moi, je suis impressionné par ces hommes, hein, par rapport, ne serait-ce qu'à moi. Ils reçoivent une vision dans la nuit d'un Macédonien qui leur dit « Viens en Macédoine, viens à notre secours, viens nous aider. » Et le matin, le lendemain, ils prennent un bateau pour aller en Macédoine. Je veux dire, soyons honnêtes, mais même un peu autocritiques. On prendrait du temps pour méditer, on prendrait du temps pour prier, on prendrait du temps pour jeûner. Et puis, j'aimerais aller un petit peu plus loin, et s'il vous plaît, il n'y a pas d'arrière-pensée, mais on organiserait un comité pour en discuter, pour en délibérer, pour décider, pour... Est-ce que je suis contre les comités? Non, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est l'obéissance. Et le jour même, ils obéissent et ils vont. Moi, je sais pas. Moi, ça me choque presque. Et ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Néopolis. Et Néopolis, c'est un port qui existe encore aujourd'hui. On y est allé avec mon épouse. Et puis de Néopolis, ils vont tout de suite à Philippi. Puis on dit, mais pourquoi Philippi? Et c'est là où ça devient très, très intéressant. Parce que Philippi était une colonie romaine. Donc, dans le monde romain, vous aviez certains endroits qui étaient dites des colonies romaines. Dans les colonies romaines, l'Empire romain envoyait des anciens légionnaires, leur donnait des terres pour s'installer, pour cultiver, et surtout pour amener la culture de l'Empire romain dans cette colonie et au-delà, à travers cette colonie. Et pourquoi Philippi était une colonie romaine? Parce que Philippi était un lieu stratégique. Tellement stratégique qu'en moins 42, c'est là que Octave et Marc Antony combattre contre Cassius et Brutus. Et c'est là où Octave et Antony, Marc Antony gagnent. C'est la fin de la République romaine et c'est le commencement de l'Empire romain. Octave deviendra César Auguste à la naissance de notre Seigneur. Et pourquoi est-ce que c'est un point si stratégique que ça? Parce que à travers cette colonie et cette ville de Philippi, traverse la Via Egnatia. Et la Via Egnatia, c'est la route du commerce qui fait le lien entre l'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui, et l'Europe, via Appia en Italie. Et c'est un point crucial. Quiconque a le contrôle sur cette voie-là, a le contrôle sur le commerce, a l'ascendant sur tous les autres peuples. C'est tellement vrai, et rappelez-vous ça, c'est tellement vrai, vous avez entendu parler de Antioche IV, Antioche Épiphane, c'est l'empereur grec qui a désacralisé le temple de Jérusalem en y sacrifiant un cochon en moins 168. Et en moins 168, quand Antioche Épiphane commet cette abomination dans le temple de Jérusalem, il perd une bataille clé dans ce même endroit qui plus tard s'appellera Philippi. Et ce n'est pas du tout dans l'idée de Paul d'aller là-bas, c'est l'idée de Dieu, mais le Seigneur lui donne un mandat, il va directement à Philippi. À Philippi, il n'y avait pas suffisamment de juifs pour faire une synagogue, il en fallait au moins 10, donc ils allaient au bord de la rivière pour se réunir le Shabbat. Paul va là-bas, il rencontre Lydie, il prêche la parole de Dieu. Le Seigneur ouvre le cœur de Lydie et en fait, à travers Lydie, le Seigneur ouvre le cœur de l'Europe et va donner accès à l'apôtre Paul à ce continent européen. Et c'est comme ça que l'évangile va venir. Alors vous savez comment ils sont arrêtés, il y a un combat spirituel, comment ils vont être en prison ils louent, ils adorent le Seigneur, il y a un tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, ils partent, ils vont à Thessalonique, de Thessalonique, ils prêchent la parole, mais ils sont persécutés, ils doivent aller à Bérée, ils prêchent la parole, mais ils sont persécutés, ils descendent jusqu'à Athènes, partout ils vont prêcher la parole, ils vont aller jusqu'à Corinthe. Ça n'avait pas de sens pour Paul, qui voulait aller en Asie, qui voulait aller en Bithynie. Ça n'avait pas de sens pour un homme qui était plein de projets, plein de visions. Mais il a reçu un mandat et il a obéi. Et en fait, Dieu sait bien mieux que nous. Il l'a amené dans le point stratégique crucial entre l'Asie mineure où il irait, l'Europe où il irait. Mais d'abord, il devait gagner ce combat-là, dans ce lieu-là, ce point stratégique de la Via Egnatia. Alors, que ce soit des mandats qui représentent une grande image, une vue d'ensemble, ou que ce soit des mandats qui sont des mandats d'une petite image, l'important pour chacun d'entre nous, c'est que nous obéissions. Et j'aimerais vous encourager ce matin à découvrir, jouir, parce que je crois que le Seigneur, l'œuvre du Seigneur se fait dans la joie, jouir, et accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et pour cela, à nous de prendre du temps, à nous de chercher, à nous de demander à Dieu. Il y a une question que je trouve dans la parole de Dieu que j'appelle la question du réveil. C'est lorsque l'on vient vers Dieu ou vers des hommes de Dieu, comme les gens sont venus vers Jean le Baptiste, comme les gens le jour de la Pentecôte sont venus vers Pierre et les apôtres, et disent, que devons-nous faire? Que ferons-nous? On peut venir devant Dieu et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je peux vous dire, c'est une question qui va plaire à Dieu, parce que Dieu, notre Seigneur, a plein de pensées dans son cœur qu'il veut partager avec nous. Partager son fardeau et il veut nous utiliser, qui que nous soyons, dans cette grande œuvre qui est la sienne et qui est si merveilleuse à nos yeux. C'est avec cette parole d'encouragement que j'aimerais vous laisser. Le Seigneur veut vous utiliser et vous pouvez dire, mais
finalement, eh ben non, c'est pas dans votre position, c'est pas dans vos compétences, c'est pas dans les circonstances qui sont favorables ou pas favorables. C'est même pas dans tout ce que vous avez pu comprendre ou ne pas comprendre, c'est même pas dans tout ce que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est simplement dans notre faim et soif de faire la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, ça réussit toujours. Mon père spirituel disait souvent, et ça avait tendance à m'agacer, ce que le Seigneur cherche en vous, ce n'est pas votre habileté, c'est juste votre disponibilité. Moïse, Moïse, Ananias, me voici. Bénédiction à vous tous. Amen.